André, allons-y avec les mots et les expressions. Vous commencez avec quelques mots d'origine étrangère.
Un mot relié au transport, pour commencer, le ballast. Mot utilisé en français depuis la fin du Moyen Âge.
Est-ce qu'il y a des roues là-dessus?
Non, il n'y a pas de roues là-dessus. C'est un poids, le ballast.
Ah bon?
Ça désignait le lest des navires, qui alors était composé de gravier et de cailloux. En fait, tout ce qu'on met pour donner du poids quand il y a passé de marchandises. Ça trouve son origine dans le mot scandinave « barlast ». Il est composé de « bar », qui veut dire « nu »,« simple », et « last », pour désigner une charge. « Last », en passant, qui est devenu « lest » avec le temps.
Oui, donner du lest. Oui.
Donc, littéralement, on pourrait le traduire en disant une charge inutile, mais c'est par opposition à la marchandise qui, elle, désignait la charge utile. Donc, c'est le sens originel. De nos jours, les navires, bien évidemment, s'ils n'utilisent plus du gravier et des cailloux, ils utilisent des réservoirs d'eau pour assurer l'équilibre, la stabilité puis l'immersion du navire. Puis malheureusement, c'est une pratique qui est à l'origine de l'introduction de plusieurs espèces envahissantes. On peut penser au Grand Lac avec la moule zébrée dans les années 80. Et il y en a plein d'autres comme ça. On remplit d'eau à l'autre bout de la planète, puis on vide ça, rendu ici. Et on introduit comme ça un peu partout au travers de la planète des espèces envahissantes. Donc, le nom ballast, en passant, c'est aussi utilisé dans le domaine des chemins de fer pour nommer la couche de pierre concassée qu'on place sous les rails qui amortit le poids des trains puis qui draine l'eau sous les rails.
Zénith.
Voilà pour le ballast. Le zénith, on passe à l'astronomie. Autre mot qui a été introduit au Moyen Âge et qui indique le point de la sphère céleste qui est situé verticalement au-dessus de l'observateur. Au sens figuré, le zénith, on dit, c'est aussi le point culminant, le sommet de la gloire, d'une carrière. On peut dire, par exemple, être au zénith de son art ou être au sommet de son art.
Ça a vraiment un lien avec l'émission, le titre de l'émission animé par Véronique Cloutier.
Oui, exactement. D'origine arabe, le mot « zénith », il résulte d'une suite de transformations, mais aussi d'une erreur de transcription, vous allez voir. Alors, ça commence avec le terme arabe « samt al-raz », qui veut dire « le chemin au-dessus de la tête ». Et en français, on a tout simplement passé à « samt », on a laissé tomber « al-raz ». Ensuite, « semt » au lieu de « samt » et « zemt ». Et « zemt », suite à une erreur de transcription, devient « zénith ».
Ah, oui.
On dit mauvaise lecture, erreur de transcription, en fait, dans cet ordre d'idées-là.
L'erreur peut être créative.
Voilà.
Créatif.
Ça fait penser aux expériences.
Une erreur. Merci.
Ça fait penser des fois aux expériences où on découvre des choses qu'on ne pensait pas découvrir à l'origine.
Oui.
Alors,
comme la tarte tatin.
Un peu le même phénomène. Voilà. À l'opposé du zénith, on parle du nadir, qui correspond au point de la sphère céleste qui est situé directement sous les pieds de l'observateur, complètement à l'autre extrémité de l'axe. Au sens figuré, c'est pas très utilisé, mais le nadir, ça représente le point le plus bas ou le pire moment d'une situation. Par exemple, on peut parler du nadir d'une crise. C'est rare qu'on dise ça, mais ce serait tout à fait
comment
approprié.
Comment ça va? Je viens d'atteindre le nadir, là.
Voilà.
Je remonte vers le zénith.
Le chemin est long entre les deux quand même. Alors, nadir est aussi d'origine arabe. Ça vient de nazir az-samt, qui signifie direction opposée par rapport au zénith. Et avec le temps, seul nazir a été conservé, nazir qui est devenu nadir. Tout simple ça.
Et on termine ce volet avec un mot peu utilisé au Québec.
Oui, davantage en France, par exemple, la Vespasienne, familièrement appelée pissotière.
Ah, c'est moins joli.
Les Français disent ça. C'est un urinoir public pour hommes à l'origine. Maintenant, on a élargi le sens. Mais urinoir public pour hommes, généralement aménagé sur la voie publique ou dans des parcs. Je suis allé à Paris l'automne dernier. Je peux vous dire que des Vespasiennes, il y en a beaucoup encore.
Vous avez fréquenté les pissotières?
Oui, très pratique, hein? Très, très pratique. À Montréal, on aimerait ça, des fois, avoir un peu plus de
Vespasiennes.
Mais savez-vous qu'à Montréal, justement, au début des années 30, on avait les Caméliennes.
Ah oui, en lien avec un maire de Montréal.
Camillien Wood, qui avait fait ériger plusieurs édicules qui abritaient, dans ce cas-ci, des toilettes publiques complètes, en partie souterraines.
Je ne sais pas si ça y a fait plaisir, hein, qu'on appelle ces toilettes-là des Caméliennes.
Je pense que c'était beaucoup en dérision à l'époque. Alors, est-ce qu'il y avait le sens de l'humour, j'espère, pour lui? Au fil du temps, la plupart de ces installations ont été démantelées, mais il y a des structures qui existent toujours, comme celle du Carré Saint-Louis, qui a été transformée en petit casse-croûte.
Ah, une toilette est devenue un casse-croûte.
Près de, en gagnant Prince Arthur, si ça vous dit quelque chose. Là, c'est, on voit vraiment que c'est quelque chose
d'époque. Oui, Mathieu, qu'est-ce que vous alliez dire?
J'allais dire c'est près de la rue Laval.
Mais... Exact.
Ah oui, la petite rue Laval, toute
voilà,
belle.
Voilà. Et pour la petite histoire, mais le mot Vespasienne vient de l'empereur romain Vespasien. Au 1er siècle, il avait instauré une taxe sur la collecte d'urine humaine dans les toilettes publiques romaines parce que l'urine avait plusieurs usages à l'époque, notamment dans le tannage du cuir, la teinturerie et même dans le lavage des textiles.
Ah oui?
Ouais, ouais. Et la pratique avait d'ailleurs donné naissance à l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ».
Oh, ben oui, c'est tout à fait logique.
Tout à fait.
Et maintenant, vous passez à quatre expressions et non quatre expressions.
Quatre expressions, tout à fait. Bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles, c'est une déformation de bailler, B-A-Y-E-R. Donc, c'est pas bailler, c'est bailler.
Bailler aux corneilles.
Bailler aux corneilles. Bailler, ça veut dire, c'est plus très utilisé comme verbe, s'étonner, être bouche-bée, bailler.
Ah oui.
Alors, ça vient d'où? Pourquoi on dit aux corneilles, bailler aux corneilles? Faut remonter au 16e siècle. Le mot « corneille » pouvait à ce moment-là désigner un objet insignifiant, sans importance, parce que la corneille était vue comme un oiseau qui n'était pas digne d'un grand intérêt.
Non.
Non, c'était plutôt méprisé, la corneille. On disait « voler pour corneille », pour dire « chasser un gibier sans valeur ». Donc, « bailler aux corneilles », ça voulait dire « rester la bouche ouverte devant une chose sans intérêt ». Un signe d'ennui, quoi. Mais comment on est passé de bailler à bailler? Ben, c'est probablement à cause de la prononciation qui n'est pas si lointaine des deux verbes et de l'idée plutôt semblable, hein, véhiculée par les deux expressions, parce que bailler aux corneilles, ça veut dire rêvasser, perdre son temps à rien faire.
Ah, OK.
C'est dans le même sens, finalement. C'est assez proche, voilà.
Bailler aux corneilles. Ouais. Corneille, un gibier sans valeur, c'est pas fin, ça, pour la corneille?
Non, c'est pas fin pour la corneille.
Non, puis pour l'auteur corneille, c'est autre chose.
Ah, ça, c'est pas sans intérêt.
L'auteur du cidre, malgré que moi, j'ai... Oui, le cidre de corneille.
Le cidre de corneille.
Mais je me souviens, j'avais vu le cidre de corneille, j'avais 15 ans, et j'avais peut-être un peu bailli aux corneilles.
Oui, ouais, enfin, ouais, à 15 ans, ça se comprend.
Oui, mais je m'en souviens toujours de cette expérience où il y avait de l'ennui, mais il y avait aussi une espèce de fascination. Alors, on retourne à nos moutons. Attire la rigole.
Attire-larigot.
Ça n'a rien à voir avec la ville de Rigaud. Là.
On ne dit plus ça bien, attire-larigot, hein, mais
non.
Ça existe. Ça veut dire faire quelque chose à l'excès, attire-larigot,
ah,
surtout
oui.
Lorsqu'on parle de boire ou de manger.
Ah, j'ai bu attire-larigot.
Voilà. Et il y a deux hypothèses qui existent sur l'origine de l'expression, qui nous renvoient aussi à la fin du Moyen Âge. Le Moyen Âge est à l'honneur ce matin. Et au fait de boire, mais pas nécessairement de l'alcool. Au 15e siècle, d'une part, le larigot désignait un petit verre en forme de flûte, comme l'ancêtre de la flûte à champagne, finalement. Alors, boire à tire-larigot, ça voulait dire vider son larigot d'un seul trait.
Cul-sec.
Cul-sec. L'autre hypothèse viendrait de la cathédrale de Rouen, au 13e siècle, où se trouvait une cloche extrêmement lourde qu'on nommait larigot.
Ah,
lourde. Comme c'est en revenant de Rigaud.
Oui, 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 R-I-G-A-U-D.
Voilà. Et les sonneurs de la cloche, qui étaient épuisés d'avoir tiré sur la corde, devaient boire à tire-larigot pour se remettre de leur effort.
Ici, tire-larigot, larigot, c'est L-A-R-I-G-O-T. Et,
oui, O-D. D.
Hein?
D comme rigot.
Ben, c'est écrit G-O-T.
Non, mais larigot, la cloche s'appelait larigot.
Oui, oui, je sais, mais
c'est ça, on a gardé
dans l'expression
« tire-larigot »,
s'écrit exactement. L-A-R-I-G-O-T.
Tout à fait.
Est-ce que vous
chers
suivez?
Auditeurs, petit,
bon, petite maîtrise. Chatouiller la queue du dragon.
Meriez-vous ça, là?
De qu'est-ce?
C'est dangereux comme activité, hein? C'est très risqué, surtout lorsqu'on réalise que ça nous vient des physiciens nucléaires, cette expression-là. Le dragon, ici, il est fait d'uranium, de plutonium, de courbes de flux neutroniques. En demandez-moi pas de vous en expliquer plus, mais on sent le danger. Chatouiller sa queue, ben, c'est mener des expériences où l'on s'approche du seuil critique, où survient la perte de contrôle sur la réaction en chaîne de la fission de l'atome. Alors, c'est dangereux. Je ne peux pas vous en expliquer plus. Je n'ai pas les compétences pour ça. Mais ça vient définitivement de ces expériences. Et en passant, l'expression existe aussi en anglais. Ça se dit « tickling the dragon's tail ».
Donc, ça serait quoi, un anglicisme?
On ne sait pas laquelle des deux est arrivée en premier. Enfin, l'histoire ne le dit pas. Il faudrait peut-être que je pousse mes recherches plus loin. Donc, c'est l'équivalent français, « tickling the dragon's tail ».
Chatouiller la queue du dragon. Et vous terminez avec une interjection.
Oui, si je vous dis « oyez, oyez », là aussi, hein, ça nous ramène loin en arrière. Ça s'écrit O-Y-Z. C'est la deuxième personne du pluriel de l'impératif présent du verbe « ouïr », « oyer ». Et on voit, on a déjà vu la forme « oyer », « O-Y-E », dans certains textes, mais c'est une faute de français, ça n'existe pas. Et pour l'anecdote, bien, la Cour suprême des États-Unis, figurez-vous, emploie encore cet appel en français pour entamer ses travaux.
C'est chic.
Alors, eux le disent trois fois. « Oyez, oyez, oyez ». All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States of America, bla 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 bla.
Oyez, oyez, oyez.
Au Corneille.
Oyez au Corneille, c'est ça.
Oui, et vous terminez avec un beau mot.
Une petite dernière, oui, mais ça, c'est une c'est pas une expression, mais c'est un nom composé.
Un mot valise?
Oui, bon, on peut dire
d'une
ça
certaine
aussi.
Façon.
Savez-vous comment se nomme une petite mèche de cheveux ramenée sur la joue?
Mais c'est ce que j'ai présentement.
Un accroche-cœur.
Oh, c'est donc cute, c'est donc joli.
C'est ce que je disais, c'est tout mignon.
Oui, accroche-cœur. Je connaissais l'attrape-cœur, mais l'accroche-cœur, non.
Voilà.
Et c'est sur ce joli mot, André, qu'on vous dit pas adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. À bientôt. On se retrouve le 21 juillet. Ça va aller vite, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Mais bonne Saint-Jean. Profitez de tout.
À vous aussi.